Voici le journal d'Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Masque sur le nez, à voter le second tour des élections municipales pour un peu moins de 5000 communes. Les bureaux de vote ouvrent en ce moment même. Premier scrutin en période d'urgence sanitaire. Nous serons dans un bureau parisien dès le début de ce journal. Autre scrutin reporté à cause du coronavirus, la présidentielle en Pologne. Un premier tour qui se résume déjà à un duel. Une page de l'histoire du nucléaire en France qui se tourne. Arrêt du second réacteur de la centrale de Fessenheim en début de semaine. L'histoire et l'avenir à présent de notre ADN. C'est le programme à partir 8h20, votre invité Eric.
Oui, on en parlera avec le professeur Bernard Sablonnière. Il publie L'ADN, histoire de nos différences. C'est d'actualité. Le livre paraît aux éditions Odile Jacob.
Dans ce journal également, la journée nationale des sauveteurs en mer appelle aux dons plus que jamais en cette période de crise sanitaire. Le coronavirus dans un musée, déjà à Genève, au musée international de la Croix-Rouge. Et puis quand la reprise est synonyme de blessure en cascade pour les footballeurs des championnats européens. France Inter. Un second tour, près de 3 mois et demi après le premier, élection municipale en suspens pour cause de Covid. 16,5 millions d'électeurs concernés, un peu moins de 5000 communes, des duels, mais également 786 triangulaires, 155 quadrangulaires. L'inconnu comme à chaque fois, mais sans doute encore plus aujourd'hui en raison des conditions sanitaires, c'est la participation. Un peu plus de 44% des électeurs s'étaient déplacés lors du premier tour le 15 mars. Les bureaux de vote donc viennent d'ouvrir. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Estelle.
Vous êtes devant une école élémentaire du 14e arrondissement de Paris. Alors est-ce qu'il y a déjà un petit peu de monde autour de vous ?
Eh ben écoutez, au moment où vous me lancez, ils viennent d'ouvrir le bureau de vote. 5, 6 électeurs, je les compte. Bon, c'est calme, hein, c'est très très calme. Je dois rien vous cacher. Le président du 3e bureau, donc du 14e arrondissement, qui est arrivé lui il y a environ 3 quarts d'heure, me disait tout à l'heure sur un ton goguenard que lui et ses assesseurs allaient s'ennuyer toute la journée dans son bureau de vote, car beaucoup d'électeurs sont partis en week-end ou sont même déjà en vacances. Et ici, comme dans beaucoup d'autres bureaux en France, on s'attend donc à une abstention record. Même si pour la première fois et peut-être la dernière, les électeurs peuvent être porteurs de 2 procurations contre 1 habituellement. Alors pour le moment, il est évidemment beaucoup trop tôt pour avoir une tendance, puisque les bureaux de vote 3 et 4 devant lesquels je me trouve n'ont ouvert qu'il y a 2 minutes, n'ont ouvert même pas, il y a une trentaine de secondes précisément, et la peur du virus ne devrait pas non plus inciter à aller voter, même si tout un protocole a déjà été mis en place pour permettre un respect strict des gestes barrières.
Alors justement, ce scrutin est placé sous le signe des conditions sanitaire.
Oui, plusieurs mesures, évidemment, comme devant tous les commerces, il y a une signalétique au sol pour que tous les électeurs respectent bien entre eux une distance d'au moins 1 mètre. Une fois à l'intérieur, c'est tout un parcours qui a été mis en place. Les explications de Samy Coudry. Il dirige les services de la mairie du 14e arrondissement de Paris.
Il est normalement recommandé d'avoir un masque. Si vous n'en avez pas, on en mettra un à votre disposition. Vous allez à la table de décharge, vous passez par l'isoloir que nous avons placé de telle manière que vous n'ayez pas à manipuler les rideaux. Ensuite, vous allez en direction de l'urne où se trouve le président qui vous fait voter. Entre lui et vous-même, il y a un plexiglas. Donc vous êtes normalement safe sur l'ensemble de l'opération.
Les électeurs auront la possibilité d'enlever leur masque une seule fois lorsqu'ils seront à l'intérieur du bureau de vote. C'est lorsqu'ils présenteront leur carte d'identité au président du bureau. Il aura alors seulement quelques secondes pour voir leur visage et bien les identifier.
Merci beaucoup Thibault Lefebvre. Masque, distance de sécurité pour les électeurs, on l'a vu, mais pas seulement, des mesures aussi lors du dépouillement ce soir. François Guichard, il est en charge des élections à la ville de Paris.
Le dépouillement est un moment toujours un peu intense et il faut être particulièrement vigilant à ce moment-là. L'ensemble des agents, des assesseurs conserveront leurs équipements individuels de protection, le masque et la visière. Nous allons organiser la distanciation physique à 1 mètre au moins entre chaque personne, une séparation également entre les tables de dépouillement. Il y a même une possibilité de dépouiller à l'extérieur, sous une tente. Et s'il y a trop de public, peut-être proposer une rotation par cycle de demi-heure. Et c'est la responsabilité du président du bureau de vote de faire respecter les règles de distanciation physique.
propos recueillis par Lauriane Delanoë. Pas de second tour des municipales. En revanche, aujourd'hui en Guyane, votre reportage, car le coronavirus continue de se propager, un couvre-feu décrété. Les municipales second tour sur France Inter ce soir après le journal de 19h, émission spéciale animée par Claire Servagen avec notre partenaire Ipsos. Premier résultat, estimation à partir de 20h.
Élection également aujourd'hui en Pologne.
Oui, présidentielle, premier tour, scrutin qui aurait dû avoir lieu le mois dernier, reporté à cause de la crise du coronavirus. Une dizaine de candidats, mais plutôt un duel qui se profile entre le président sortant, Andrzej Duda, homme clé du parti conservateur nationaliste au pouvoir, et Rafał Trzaskowski, libéral et europhile, Ludovic Piétenu.
Andrzej Duda a longtemps fait la course en tête. De 60% d'intention de vote au mois d'avril et une réélection assurée dès le premier tour, il est tombé sous les 40%. Autrement dit, sa base électorale, explique le politologue Tomasz Pudowski.
C'est plus ou moins le soutien habituel pour le PiS, le Parti Droit et Justice. Mais là, il a besoin de 50% pour gagner. Et l'autre moitié des électeurs polonais, en gros, sont contre ce gouvernement.
Et ces anti ont peut-être trouvé la personne capable de les rassembler. Le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, s'est déclaré candidat contre toute attente il y a seulement 6 semaines, rappelle ce politologue. Et depuis, la dynamique est clairement de son côté.
Ce candidat est neuf, il est jeune, c'est quelqu'un de plutôt séduisant. Il est une sorte de... Enfin, ce sont ses soutiens qui le disent, une sorte de Kennedy ou Obama ou Macron. Autour de lui, un vent d'optimisme et d'espoir.
En réaction, Duda a radicalisé sa campagne, mais rien n'y fait dans les sondages. Le président sortant est stable autour de 39% et n'a pas d'allié pour le second tour. C'est tout l'inverse pour Trzaskowski, autour de 28%, avec des reports de voix suffisants sur le papier pour rendre l'issue de cette élection totalement incertaine. Varsovie, Ludovic Piétenu, France Inter.
Plus de 2,5 millions de contaminations au coronavirus désormais aux États-Unis. Situation de plus en plus critique dans le sud, notamment en Floride. De leur côté, les 27 pays de l'Union européenne décident quels pays seront autorisés à rentrer dans l'Union au 1er juillet. On devrait connaître la liste demain. Les États-Unis seraient exclus, la Chine autorisée, mais sous conditions. Au Sénégal, c'est un site incontournable pour les touristes de passage à Dakar, l'île de Gorée, bijou reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais inaccessible aux non-résidents selon un arrêté ministériel. Des mesures strictes, d'autant que la commune est la seule du pays à ne connaître aucun cas de coronavirus. Mais les conséquences économiques sont importantes. Reportage sur l'île, signé Théa Olivier.
Les plages de sable blanc et les terrasses de restaurants sont désertes sur l'île de Gorée. Seuls quelques enfants sénégalais jouent dans l'eau turquoise, habituellement prise d'assaut par les touristes. Aïssa Touba, restauratrice, est désespérée.
Ici, on vit du tourisme. Il n'y a pas de tourisme, il n'y a rien qui marche. On s'aide entre nous. Au début, ça allait, mais maintenant, ça commence à être dur.
Plus de 80% de la population de l'île vit grâce au tourisme étranger et se retrouve sans aucun revenu. Une situation qui inquiète Mamadou Diop, chef de cabinet à la mairie de Gorée.
On est sur une place où il y a une grande terrasse et la terrasse est vide. Il y avait l'habitude que la terrasse soit pleine, mais là, il est carrément vide. Gorée a senti dès le premier jour la crise économique.
Pour répondre à cette crise, le maire de Lille, Augustin Sangor, a organisé 5 distributions alimentaires en près de 4 mois.
C'est 100% de perte de chiffre d'affaires pour tous les opérateurs touristiques. Le conseil municipal a très tôt compris le danger en disant « l'État va venir, mais les procédures au niveau étatique vont être très très longues ». Donc immédiatement, on a donné les instructions de faire des provisions en denrées alimentaires, en produits de nécessité, en masques, en thermoflash.
Pour organiser les distributions, la mairie s'est appuyée sur la solidarité des jeunes volontaires goréens. À Dakar, Théa Olivier, France Inter.
C'est la doyenne des centrales nucléaires françaises après 43 ans de service. Fessenheim en Alsace, définitivement arrêté dans la nuit de lundi à mardi prochain. Le réacteur numéro 1 éteint depuis février dernier. Le deuxième le sera donc dans quelques jours. Fin d'un symbole et d'un feuilleton de plus de 30 ans, Margot Turgis.
Les problèmes commencent dans les années 90. Micro-fissures sur le couvercle, pollution des eaux, contamination d'employés. En 2007, la coupe est pleine. Pour la SN, l'autorité de sûreté nucléaire, EDF manque de rigueur dans l'exploitation de la centrale. C'est le début des demandes de fermeture de Fessenheim. 4 ans plus tard, en 2011, la catastrophe de Fukushima au Japon rebraque les projecteurs sur la centrale. Les antinucléaires se mobilisent, élus locaux et salariés se battent pour le maintien du site. Le tournant s'opère avec François Hollande. Fermeture immédiate de Fessenheim, promet le candidat à la présidentielle. Immédiate pas vraiment. Élu, François Hollande repousse l'échéance en 2016 puis 2018. 2018, année où Emmanuel Macron scelle le destin de Fessenheim. Elle s'éteindra à l'été 2020. Le réacteur numéro 1 ne fonctionne plus depuis février. Dans la nuit de lundi à mardi, autour du réacteur numéro 2 de s'éteindre, place ensuite à un nouveau feuilleton, le démantèlement. Il devrait prendre 20 ans.
Et après l'arrêt total de Fessenheim, la France gardera 56 réacteurs en activité, conservera sa place de deuxième parc nucléaire plus important au monde derrière les États-Unis.
Ils sont 8000 en France et c'est leur journée aujourd'hui.
Les sauveteurs en mer, la SNSM, une association qui vit essentiellement grâce aux dons, notamment se réaliser en cette journée lors des visites des bateaux. Mais en ces temps de crise du coronavirus, pas de visite. Des stations sont d'ailleurs en grande difficulté financière. À Jullouville dans la Manche, la station lance d'ailleurs une campagne. Les bénévoles ont besoin de 25 000 euros pour remplacer leur bateau qui ne peut plus sortir en mer, Linda Achour.
L'alerte est donnée en 2016 sur un premier bateau. Pour ne pas fermer la station de Jullouville, la présidente Géraldine Chrétienne décide de racheter une ancienne vedette à la SNSM de Pirou, mais elle commence à fatiguer.
Ce bateau-là, on sort avec, il a fait son âge. Donc, est venu avec le siège l'idée de changer de moyen. Qui dit changer de moyen, donc on repart à zéro, on change de tracteur, on change de remorque.
Tout ça a un coût, 140 000 euros. Même si le siège, la région et le département prennent en charge une partie, la station, elle, doit débourser 25 000 euros.
Sachant que quand on finance un moyen au niveau de la SNSM, on parle bien de moyen, et ce moyen, c'est uniquement le bateau. Donc nous, à côté, nous avons à financer en plus le tracteur et la remorque.
Cette année, toutes les manifestations, les portes ouvertes, les braderies sont annulées. La SNSM de Jullouville ne peut compter que sur les dons.
Sans un bateau, sans un moyen, on n'est pas grand-chose. On ne va pas reprendre les bateaux à la rame pour sortir, donc c'est vraiment nécessaire. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et on espère que les gens seront sensibilisés sur le fait qu'on peut les sauver, mais on peut les sauver avec un bateau.
Près de 4000 euros ont déjà été récoltés.
Linda Achour, France Bleu, Cotentin. Des photos de l'agence Magnum prises pendant le confinement au beau milieu d'une expo permanente. Ça se passe au Musée international de la Croix-Rouge à Genève. Une expo dans l'expo, comme une mise en abîme, un parallèle avec le virus qui s'est immiscé dans nos vies. Visite avec Jérémy Lanche.
Alors ici, on voit une magnifique photo d'une soirée disco sur Zoom et une personne qui danse devant l'écran.
Pour les photographes empêchés de circuler librement, la pandémie a été l'occasion de se réinventer. Le constat vaut aussi pour le directeur du Musée international de la Croix-Rouge, Pascal Huschmidt, plutôt habitué à parler de l'action humanitaire là-bas qu'ici.
Médecins sans frontières s'est déployé à Genève. D'habitude, Médecins sans frontières, ils sont à Goma en RDC. Et donc c'est vraiment dans une ambition cathartique qu'on a fait ce projet pour qu'on puisse se dire voilà, on a réfléchi à ce qui s'est passé, maintenant on peut tourner la page.
La statue du fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant, qui fait face à une photo d'infirmière masquée en service de réanimation, des témoignages de survivants du génocide au Rwanda mêlés à ceux de confinés de 2020. Le grand écart est assumé et différemment apprécié selon les visiteurs.
C'est l'actualité, il y a tout le monde qui parle de ça, alors ça donne même plus envie de voir des choses quand même.
C'est bizarre parce qu'on est encore dans la crise et pourtant on prend un point de vue extérieur pour regarder ça maintenant comme un événement classé. Je n'ai pas spécialement envie de voir ça pour l'instant, mais peut-être dans un an ou deux, ce sera intéressant.
Covid-19 et nous, c'est aussi une exposition participative. Le grand public est invité à envoyer ses œuvres réalisées pendant la pandémie. Les meilleurs intégreront le musée dès cet automne. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Allez, on termine avec l'impact de la crise du coronavirus sur les sportifs.
Dans ces championnats compétition annulée ou reportée, préparation interrompue, ça pèse sur le moral et sur le corps aussi, cette reprise brutale. 3 mois d'interruption et des blessures qui se multiplient, notamment chez les footballeurs des clubs européens, Maya Cazenave.
Sergio Ramos, Gonzalo Higuain, Marcus Thuram ou Sergio Aguero, les infirmeries des clubs européens se remplissent de jour en jour et cela n'étonne pas le consultant football de Radio France, Jérôme Alonso.
Les statisticiens ont déjà dénombré 3 fois plus de blessures qu'en temps normal. Mais tout ça est absolument logique. Il faut savoir qu'un footballeur, normalement, son break en vacances, c'est 3, on va dire, 4 semaines s'il est chanceux. Là, on est sur 3 mois d'inactivité avec une reprise au taquet.
Dans ces conditions, les préparateurs physiques ont été très sollicités. Même s'ils ont accompagné les joueurs pendant le confinement, rien ne remplace le terrain. La dose d'entraînement journalière avec des impacts et de l'intensité. Pierre Lassus est préparateur physique au PSG.
Là, on va retrouver un capital musculaire qui est en deçà de ce qu'il pouvait y avoir avant le confinement. Et il faut essayer de jongler et de retrouver un équilibre avec une progressivité dans les intensités. Si on prend une petite image, c'est l'élastique. Si on tire trop fort dessus, ça casse. Un élastique qui s'est encore moins entraîné va casser plus vite.
Le sujet a suscité le débat, mais il y a un avantage à l'arrêt de la Ligue 1, c'est de pouvoir observer ce qui se passe dans les autres grands championnats européens pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et ainsi éviter l'avalanche de blessures.
Maya Cazenave-Garro, blessure à la reprise, hein, Eric Patricia.
On fait attention, on va surtout essayer d'en profiter un peu pendant quelques semaines. C'est le dernier 6-9 week-end de la saison et c'était le journal d'Estelle Schmitt.